Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse et nous sommes arrivés au chapitre 6. Le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, est un livre qui est souvent mal compris, mais qui présente un message très encourageant, surtout pour l'Église dans les moments de persécution. Il s'adresse à des assemblées dans l'Empire romain qui seraient dans peu de temps sérieusement éprouvées par un gouvernement qui employerait des moyens très violents dans un effort de la supprimer complètement. L'Apocalypse assure le peuple de Dieu que ses ennemis n'auraient pas le dernier mot. Le message du livre est transmis au moyen d'une série de visions que le Seigneur a fait voir à l'apôtre Jean. Dans nos études précédentes, Jean a été transporté en quelque sorte au ciel, où il a eu le privilège de voir le trône de Dieu et la cour céleste. En plus, il a vu dans la main de Dieu un livre, un rouleau, fermé au moyen de 7 sceaux, que seul l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, était digne de recevoir et d'ouvrir. Le chapitre 6 de l'Apocalypse nous montre ce qui se passe au fur et à mesure que l'agneau rompe chacun des sceaux du rouleau qu'il a reçu du Père. Il ne s'agit pas d'un livre ordinaire. Jean ne lit ni n'écoute lire son contenu. Il voit son contenu dans une série de visions. Par exemple, à l'ouverture de chacun des premiers 4 sceaux, un chérubin dit d'une voix de tonnerre « Viens !» et un cheval et cavalier paraissent. Ces célèbres cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas aussi faciles à identifier que celui qui est assis sur le trône ou l'agneau qui était là comme immolé. Ceux qui souffriront à cause des activités des cavaliers ne sont pas clairement indiqués non plus. Selon certains interprètes, le premier cavalier, monté sur le cheval blanc, représente, comme le cavalier de l'Apocalypse 19, versets 11 à 16, le Christ lui-même. Il sera en vainqueur et pour vaincre l'ennemi qui est l'Empire romain, en menant après lui les 3 autres cavaliers, qui apportent des maux sur l'Empire, la guerre, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Ce sont en effet des moyens traditionnels par lesquels Dieu châtiait des nations méchantes. Ézéchiel 14, verset 21. Ces plaies sont limitées et servent surtout d'avertissement aux Romains pour qu'ils se repentent. Cette interprétation est possible, mais elle laisse un problème. S'il s'agit ici de jugement contre Rome, pourquoi les martyrs que nous révèle le 5e sceau demandent-ils à Dieu de juger l'ennemi et de venger leur sang? Ils seraient déjà en train de le faire. Les premiers 4 sceaux représentent peut-être ce que l'Église doit encore subir de la part de l'Empire avant que Dieu ne commence à punir. Le premier cheval, le blanc, portait un puissant guerrier. Un autre cheval, rouge feu, portait un cavalier qui faisait que les hommes s'égorgent les uns les autres. Le troisième, sur un cheval noir, portait une balance à la main pour le rationnement des vivres. Le quatrième, monté sur un cheval de couleur pâle, s'appelle la mort, et il est accompagné du séjour des morts personnifiés qui ramasse les victimes. Ces cavaliers représentent donc la guerre, le sang versé, la famine et la mort. L'Empire romain, en effet, avait déclaré la guerre contre l'Église. Beaucoup de sang serait encore versé, puisqu'au temps de l'apôtre Jean, la lutte ne faisait que commencer. Apparemment, il y avait eu un seul martyr parmi les sept églises d'Asie. Des pressions économiques seraient exercées contre les chrétiens, dont quelques-uns devaient connaître la fin. L'effet général des persécutions serait l'entrée de nombreuses personnes au séjour des morts. Cette interprétation semble conforme aux réalités historiques. Pendant environ un siècle après l'envoi de l'Apocalypse aux églises de l'Asie, l'Empire romain connut, non pas les défaites militaires et le manque de nourriture, mais plutôt une époque de prospérité, conquête et gloire. L'Église, par contre, subissait toujours des persécutions. Ce n'était que vers la fin du deuxième siècle que les malheurs commencèrent à s'abattre sur l'Empire. Devant ce premier état des choses, on pouvait bien se poser la question entendue lors de la rupture du cinquième sceau : jusqu'à quand ? Ayant vu des événements sur la terre au moyen des quatre premiers sceaux, nous sommes transportés au ciel par le cinquième pour voir la réaction des martyrs à l'égard de ces persécutions plus intenses contre leurs frères qui sont toujours en vie. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant : « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et on leur demanda de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Les martyrs, c'est-à-dire les chrétiens que l'on avait tués à cause de leur foi chrétienne, se trouvent sous l'autel, leur vie étant comme des sacrifices à Dieu. Selon Lévitique 4, verset 7, le sang des sacrifices sous l'ancienne loi était mis au pied de l'autel. Il demande à Dieu, le juge de l'univers, d'administrer la justice en châtiant ceux qui les ont tués. Il se scandalise de voir tant durer le triomphe des ennemis de Dieu et lui demande de leur faire justice et de glorifier son nom. La réponse est en deux parties. Premièrement, ils reçoivent des robes blanches, symbole de leur victoire. Leurs ennemis croyaient les vaincre en les mettant à mort. Mais en fait, la mort les avait fait entrer dans la victoire, le repos et la gloire. Deuxièmement, il leur est dit d'attendre que le moment fixé par Dieu lui-même arrive pour les venger. La réponse semble désigner deux groupes différents dont le nombre devait être complété avant que Dieu ne se venge. D'abord, on parle des compagnons de service des martyrs, c'est-à-dire tous ceux qui devaient se convertir et se mettre au service de Dieu. En attendant, avant de détruire l'Empire romain, Dieu permettrait à des milliers de personnes d'être sauvées et ajoutées à l'Église. Et ensuite, on parle des frères qui devaient eux aussi subir le martyre. Encore d'autres chrétiens allaient mourir pour la cause de Christ, avant que l'iniquité des Romains ne soit à son comble. Par la suite, nous voyons, à partir du verset 12, l'ouverture du sixième sceau. Jean dit : « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers : « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» À l'ouverture du sixième sceau, on commence à voir le sort de Rome. Plusieurs images de jugement et de bouleversement tirées de l'Ancien Testament sont employées pour décrire le fait que Dieu lui-même va renverser l'Empire romain. Un tremblement de terre suggère la force et la colère de Dieu. Ésaïe 13, verset 13. Le soleil obscurci rappelle la plaie des ténèbres dont Dieu frappa le pays d'Égypte. Exode 10, 21 et 22. Ces signes ne devaient pas être réalisés littéralement, de même que la lune ne fut pas changée en sang le jour de la Pentecôte, et pourtant Pierre dit que la prophétie qui contenait cette image-là fut accomplie en ce jour-là. Acte 2, versets 16 à 20. L'idée de ce passage, où l'on voit le ciel retiré comme un rouleau et la fuite des montagnes, n'est pas de détailler les signes de la fin du monde, mais d'indiquer qu'il n'y a pas d'espoir pour les méchants quand Dieu se lève pour les détruire. Il serait préférable d'être écrasé par des rochers que de faire face au châtiment divin. Le chapitre se termine par une question. Qui peut subsister dans le jour de la colère de Dieu? La réponse à cette question urgente sera révélée avant l'ouverture du septième et dernier sceau, et nous la verrons dans la prochaine émission. Ne manquez pas de la suivre.
Je chanterai ta céleste puissance, ô roi des cieux, mon Dieu, mon Créateur. Ta gloire éclate avec magnificence dans l'univers rempli de ta ta sagesse infinie qui dirigea les astres radieux, qui de la course suré l'harmonie et qui peupla l'immensité des cieux.
Soit ce nom si beau.